découvrirez avec Cathy Diop là, pendant qu'on était dans cette musique, dans cette ambiance, de tout ce parcours, de tout ce cheminement, et aussi de la difficulté, c'est-à-dire le moment où vous savez que vous avez envie de faire quelque chose qui sera le dessin et puis après qui va devenir la sculpture. Ça nécessite quand même de faire avaler ça à votre famille, ce qui n'est pas complètement évident.
Bah oui, parce que déjà le fait de dessiner, enfin depuis l'enfance, de gratter sur n'importe quel bout de papier ou sur une table à l'école, ça reste encore, ça passe quand oui. On est petit. Mais petit à petit, quand les parents, en tout cas dans ma famille, en tout cas ça a été le cas. Et c'est le cas dans la majorité des familles, on va dire, je vais parler de ce que je sais, on va dire à Dakar, le fait de se prédestiner à une carrière artistique n'est pas quelque chose de simple.
Quoi, ils vous auraient vu médecin, ils vous auraient vu ministre. Oui. Votre famille, Djadid Diop, était plutôt bourgeoise, cultivée. Vous avez évolué.
Oui. En fait, bourgeois, c'est pas le terme.
Non.
C'est plus. Mes parents avaient une situation. Ils étaient aisés, chacun dans son travail, jusqu'à ce que mon père décède. Et même avant son décès, il avait plus ou moins perdu sa situation, on va dire. Et donc, nous sommes huit enfants. Et huit enfants, pour un salaire, ça ne fait pas du tout une famille bourgeoise.
Vous êtes né en 73, oui. 1973. Vous êtes dans cette fratrie au milieu, le dernier.
Je suis parmi les derniers, je suis le sixième. Et donc, mais par contre... avec une ferme volonté de la part de ma mère de toujours vouloir que ses enfants soient dans une école avec un niveau qui soit facilement transposable, on va dire. Donc ce qui a fait que j'ai toujours été dans une école privée, les écoles privées catholiques à Dakar, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi, on va dire. En tout cas, c'était ce qu'il y avait de mieux quand j'avais avant mes 20 ans. Donc, et maintenant, ce qui m'a amené à côtoyer tout le temps des gens qui venaient de partout, des gens qui étaient, qui venaient de. J'ai eu des camarades de classe indonésiens, malaisiens, enfin, pour vous dire la diversité des gens que je côtoyais. Et ce qui a fait que. Ce qui a éveillé ma curiosité, en tout cas, par rapport. Aux autres, par rapport aux autres, c'est-à-dire par rapport aux autres gens des autres pays. C'est parce que j'ai une fascination en fait pour les humains, on va dire.
Ouais.
Bah ça me fascine, moi, qu'il y ait des gens à l'autre bout de la terre qui vivent, qui ont les mêmes émotions que moi, qui ont les mêmes on va dire les mêmes craintes, les mêmes. En fait, voilà, ce qui m'intéresse, c'est de trouver les points communs entre moi. Et celui qui est à l'opposé, et il y en a forcément des points communs entre nous tous. Donc.
Ainsi naîtront dans le futur vos hommes rouges, mais n'allons pas trop loin.
Oui,
parce que, vous avez parlé de vos 20 ans. Hein. En tout cas, vous pouviez dire que jusqu'à vos 20 ans, l'école catholique là-bas était ce qu'on pouvait faire de mieux au niveau, d'ailleurs par exemple, de ces rencontres. Mais à 20 ans, vous décidez de venir en France.
Oui.
Là, la France, c'est une de vos deux langues maternelles. Mm-hmm. Et puis, vous avez envie d'apprendre. Et très vite, ça va aller. Ça va se passer très, très facilement. À la fois l'intégration, je pense. Pas de problème.
Non, aucun problème d'intégration. Parce que, si vous voulez, Dakar, c'est un petit Paris, hein, en quelque sorte, Dakar. Il y a tout. Si on veut être à New York, à Dakar, on peut être à New York. Si on veut être à Paris, à Dakar, on peut être à Paris. On peut se retrouver dans des ambiances, dans les ambiances qu'on veut. Et en fait, le fait que je sois dans cette école internationale, mais plutôt francophone, a beaucoup facilité mon arrivée en France, on va dire. Et donc. Quand je suis arrivé, je parlais français comme je parle aujourd'hui. Il n'y avait pas de, il n'y avait pas de, de problèmes de, d'intégration par la langue. Il n'y avait aucun mur, en tout cas. Enfin, le seul mur, c'était de m'habituer à prendre le métro, le RER. Enfin, c'est, si on peut appeler ça un mur.
Et vous veniez pour faire les Beaux-Arts, vous ne saviez pas encore
En fait, je suis venu vraiment pour rentrer, pour intégrer l'école des Gobelins.
Ah, d'accord. Donc, oui, c'était dessin animé.
Pour le faire le dessin animé. Et comme il n'y avait pas l'équivalent de ce qui était le bac F12 à l'époque, où on avait une petite des notions d'histoire de l'art, une culture générale en histoire de l'art, ça, dans le programme sénégalais, on ne le faisait pas. Donc on avait la culture sénégalaise, la culture africaine, des notions d'histoire de l'art à ce niveau-là, mais au niveau cinématographique, c'était pas trop axé là-dessus. Donc il fallait, pour rentrer au Gobelins, avoir une certaine connaissance de tout ce qui se passe dans la création audiovisuelle, ce que je n'avais pas.
Qu'est-ce que vous dites à votre mère pour qu'elle vous autorise et qu'elle soit rassurée de mener cette carrière artistique qu'elle ne voulait pas que vous voir endosser?
C'était très radical. C'était, moi je veux faire ça. Elle, c'était non. C'était le clash, quoi. Il y a eu un gros clash.
Ouais.
Jusqu'à ce que, au bout d'un an, j'ai rien fait. Donc j'ai fait passer une année sabbatique.
Là-bas, c'est, sur
oui,
place.
Oui, sur place.
Voilà.
Et puis, au bout d'un an, avec l'aide d'amis et de gens qui sont devenus petit à petit des gens même de ma famille, des Français, qui ont réussi à faire avaler la pilule à ma mère, quoi. Et du coup, ça a été possible de partir.
Du coup, il y a un défi. Quand vous êtes au Gobelins, vous savez que ça peut directement mener aux Beaux-Arts ou aux Arts Déco, et le chemin va être très...
Alors, je suis pas arrivé au Gobelins. C'est-à-dire que je suis arrivé donc dans une prépa pour pouvoir intégrer les Gobelins qui se passaient, dont l'accès était sur concours. Donc, pour avoir le plus de chances possible d'intégrer les Gobelins, il fallait que je fasse une prépa. Et donc, c'est lors de cette prépa que j'ai pu avoir accès à tout ce qui était le modelage, un champ que j'imagine, je soupçonnais même pas, quoi. Enfin, la dernière fois que j'avais modelé, ça devait être à la maternelle. Et je me retrouve avec de la terre, et puis ça me fait des sensations terribles, et je me dis il faut essayer ça aussi, quoi. Enfin, faut approfondir.
Mais Diadji, sur ces sensations terribles aujourd'hui, s'il fallait les décrire, parce que j'imagine que c'est toujours un peu les mêmes, vous arrivez à mettre des mots, vous le sculpteur?
Eh bien, je pense que ce qui est de passionnant dans le fait de sculpter, de modeler ou de créer une forme qui s'apparente à l'être humain, puisque c'est ce que je ne fais que des êtres humains ou alors des armes, on en reparlera.
Ouais.
Mais ce qu'il y a de passionnant, c'est que, au bout d'un moment, on se dit, c'est comme une extension de moi que je fais, mais en même temps, c'est pas moi que je fais, c'est quelqu'un d'autre. Mais alors, c'est qui? Et là, c'est vraiment dans le sens création, puisque je ne fais pas des portraits. Ça m'arrive de faire des portraits, mais ça, c'est dans le cadre de demandes. On me demande de faire un portrait, mais dans le cadre de mon travail personnel, je ne fais pas le portrait de quelqu'un. Ce que je veux faire, c'est tout le monde à la fois, en fait. Donc, à ce moment-là, le fait de créer, de faire sortir un visage et que ça ne ressemble à personne, mais en même temps, ça peut ressembler à n'importe qui, ça, je trouve ça génial.
Tribe.
Voices shot to the sky. There were cries to dumb blind eyes. There were downturned palms on rays. Fist across the drowned out in praise. There were shouts shot from the back of tongues. Swallowed down thrills to choked up lungs. Joy brimming from the deepest well. From the source sprung to break the spell. How long?
raindrop became a sea. From one sea grew a forest of trees. Two bodies and generations came to walk the ground and disappear again. Until a siren blew among the reeds, warning of crops that no longer feed. Sending buds up to flower and bloom under cover of the darkest moon. Across the western lands.
Ça découpe, ça soude. Là, on rentre dans l'atelier de Diadjit Diop, qui se trouve au fond d'un jardin, dans un quartier paisible de Choisy-le-Roi, dans le Val-de-Marne. Il paraît qu'on l'atteint par une allée bordée de nus féminins de grandeur nature. C'est quand vous avez reçu Philippe Dagen du Monde qu'il a découvert votre univers, qu'il a été complètement passionné, assez fasciné par ce qui jaillissait de votre esprit. On peut dire ça.
Oui.
Et on se rend compte que c'est extrêmement physique, d'ailleurs, ce travail, ça s'entend, là.
Et technique.
Oui, c'est très physique. Disons que quand on fait ce genre de sculpture, on travaille avec tout ce qu'on a. Donc, aussi bien ses mains, ses pieds, son épaule. Il faut retenir des poids. Faut faire
de 800 kilos ou plus?
Non, quand même pas. Mais...
Ah bon?
Mais en tout cas, on donne avec tout ce qu'on a, tous les moyens qu'on peut avoir pour arriver à une fin. Et souvent, effectivement, il faut y mettre un coup de pression. Et dans ce sens-là, c'est physique. Mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que c'est le physique allié au mental. Vraiment, ça va de pair, quoi. C'est pas juste je réfléchis sur un projet. Pendant même que je suis en train de crier, je suis en train de réfléchir en même temps sur le projet. Donc, je travaille comme ça, en tout cas.
Et en fait, vous avez toujours travaillé sur le monumental? Il n'y a aucun moment où vous avez eu envie d'être sur des petites formes ou...
Parce qu'il y a vos hommes rouges, on va en parler, mais font parfois plus de 3 mètres.
Ouais. En fait, le monumental, le goût du très grand m'est venu aussi progressivement. Avant, je faisais des choses grandeur nature. J'ai commencé par faire des choses à hauteur d'homme. Et puis, je me suis rendu compte que... Au fur et à mesure que je faisais donc des pièces un peu plus grandes que nature, eh ben la perception des œuvres, même le toucher, n'était plus, c'était plus la même chose du tout. Ça donnait à l'œuvre une dimension beaucoup plus, comment on dit, quand ça touche enfin, un maximum de personnes à la fois.
Universelle
Oui, presque universelle.
Une certaine forme de transcendance.
Oui, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, disons que ça donnait à mon travail un côté beaucoup plus invitant. Voilà. Le fait de faire des choses en grand, ça crée forcément donc un carrefour, vu que tous les yeux sont rivés dessus de par la taille, et c'est cet effet carrefour qui m'a beaucoup plu en fait.
Et ça réduit aussi peut-être la notion qu'on a de soi. Si on est face à quelque chose de monumental, on est un petit peu renvoyé à une enfance ou quelque chose en tout cas.
Aussi, oui. On se sent petit effectivement à côté, donc c'est vrai que ça nous replonge dans une espèce de nostalgie un sentiment où on était protégé quoi.
Tout à l'heure dans la première heure, Diadji Diop, on avait entendu une archive de Marcel Duchamp. Aujourd'hui, grâce à Gwenaëlle Abolivier, on va vers un univers qui vous est très proche, puisqu'on reste dans la sculpture avec une autre grande voix, celle que vous aimez exhumer. Et c'est une rencontre avec Alberto Giacometti que vous nous proposez peut-être de faire, non ?
Voilà, une belle et charmante et charmeuse voix, douce et autoritaire à la fois, celle du sculpteur, justement, peintre aussi et dessinateur, qui voyait la beauté en toute chose. Alberto Giacometti.
En fait, il n'y a que le dessin qui compte, qu'il faut s'accrocher exclusivement, uniquement au dessin. Et que si on dominait un peu cela, tout le reste serait possible.
Et voilà, ce soir vous avez rendez-vous, chers auditeurs, avec un homme qui marche et qui pétrit la nature comme il caresse le monde. Alberto Giacometti nous reçoit dans son atelier, lui aussi, un lieu qu'il ne quitte pratiquement jamais. Il faut donc imaginer une pièce, le 46 de la rue Hippolyte Mindron dans le 14e arrondissement. Un lieu en désordre avec de la poussière, des graffitis sur les murs, des sculptures inachevées, des tableaux ébauchés, des outils aussi maculés de peinture, de plâtre, de glaise aussi. De la fumée de cigarette, celle qui lui rend la voix si rocailleuse. Alberto Giacometti est né dans la province des Grisons, en Suisse italienne, où il découvre le dessin, car son père est peintre. Après un passage aux Beaux-Arts de Genève, il débarque à Paris en janvier 1922. C'est l'époque des heures chaudes du Montparnasse. Là, le jeune Alberto va explorer la sculpture contemporaine, l'art africain, la statuaire grecque et bien sûr être en contact avec les surréalistes, comme il le raconte en novembre 1963.
Quand je suis arrivé, c'était au fond la fin. Et puis en plus, pour un étranger, il n'y a rien plus difficile que d'entrer en contact avec des Français, n'est-ce pas ? C'est un mur. Je suis arrivé à Paris, j'ai connu ce qui était la Grande Chaumière, c'est-à-dire c'était uniquement des étrangers, sauf un Français. J'étais jusqu'à vers 30 sans connaître un Français. Alors j'ai commencé par voir des Yougoslaves parce qu'ils travaillaient ensemble à la Grande Chaumière, après des Suédois, enfin j'ai vu. En fait, je me sentais très seul. Et puis quand j'ai connu Masson à une exposition, le jour même, j'ai connu une bonne partie de mes amis qui sont encore aujourd'hui. C'est-à-dire Masson, Bataille, Léris, Desnos, et Queneau et beaucoup d'autres. Et du coup, c'est comme si j'avais toujours été là.
Mais finalement, Giacometti ne se sent pas intégré au groupe des surréalistes, qui ne tarde pas d'ailleurs à l'exclure. Effectivement, le sculpteur souhaite travailler d'après nature, avec des modèles, ces modèles étant son frère Diego, qui lui vouait une admiration sans borne, et sa femme Annette. Mais cette activité est considérée comme totalement réactionnaire de la part des surréalistes. Il est taxé de traître, et à partir de ce moment, il va poursuivre seul sa recherche, que l'on peut résumer par une quête de la représentation de la réalité. Tout son travail consistant à tenter de reproduire dans ses sculptures ou ses tableaux l'étonnement du premier regard, la fameuse vision originelle, parfois accompagnée de violence. Alberto Giacometti, en 1950, au micro de Georges Charbonnier.
C'est la sculpture où je ressens comme une violence contenue qui me touche le plus. Est-ce que la violence me touche dans les sculptures.
Et cette violence contenue, vous la trouvez dans la réalité ?
Je crois, oui, absolument, dans tout. Et au-delà, mais enfin, de ce que même que je pense qu'on puisse reproduire. C'est même ça qui m'étonne que, par exemple, dans la tête du personnage le plus flou, le plus mou, non ? Si je commence à le regarder et vouloir le dessiner, le peindre, plutôt le sculpter, disons, tout cela se transforme en forme tendue et, il me semble, toujours de violence extrême, contenue, hein? Comme si la forme même du personnage dépasse toujours ce que le personnage est. C'est-à-dire, il est ça aussi, hein? Mais il est surtout une espèce de noyau de violence. C'est probable, d'ailleurs, il me semble, c'est plausible que ce soit comme ça, du fait même qu'il puisse exister.
Si je fais de la sculpture, disait Alberto Giacometti, c'est que je n'y comprends toujours rien. J'aimerais bien comprendre et m'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Il a passé sa vie à faire et à défaire, à détruire et à modifier ses œuvres pour mieux approfondir l'expérience fondamentale qui est au cœur de son art, la solitude des êtres et des objets, le petit néant personnel, comme le disait Jean-Paul Sartre. On entend de nouveau la voix d'Alberto Giacometti, un homme aux mains que l'on devine à la fois rugueuses et sensibles, qui a également beaucoup dessiné, des portraits essentiellement, et peint des tableaux abstraits dans les années 20 et 30.
Là, je crois que naît sculpture, vraiment, qui ne peut être dite que par la sculpture. Que tout ce qui est dit par la peinture, vaut mieux le dire par la peinture. Il faudrait commencer à réduire, pour se rendre un peu compte de ce que s'appelle la sculpture, à ce qui ne peut être dit d'aucune autre manière que par la sculpture. Et je crois, par exemple, que dans la peinture, disons abstraite, non, disons Mondrian, par exemple, où il voulait abolir l'illusion et créer un objet en soi, équivalent à n'importe quel autre objet, c'est un des peintres que j'aime le mieux, parce que je trouve merveilleux d'être allé à ce point-là jusqu'au bout, n'est-ce pas? Mais c'est un impasse. Mais même là, il se fait des illusions quand il croit que c'est une illusion. Parce que le tableau de Mondrian n'est pas du tout un objet en soi, comme une casserole ou comme une table. C'est bel et bien uniquement l'empreinte de Mondrian sur une toile. Là, ça devient un peu... En fait, la peinture de Mondrian s'approcherait un peu à la sculpture. N'est-ce pas? Ça deviendrait presque un objet. Et d'ailleurs, il le considérait un peu comme tel.
Les sculptures d'Alberto Giacometti se vendent aujourd'hui dans le monde à prix d'or. Peut-être savez-vous qu'en février 2010, L'Homme qui marche s'est vendu à Sotheby's à 75 millions d'euros, soit l'enchère la plus élevée au monde. Ça fait rêver, Djadid Diop?
Oui, beaucoup, oui.
Mais à regarder de plus près, justement, Giacometti, sa vie, c'est vrai qu'il y a chez ce personnage une grande immobilité, une contemplation. Finalement, il voyage très peu pour justement nourrir son travail. Et vous, justement, comment faites-vous? Est-ce que vous vous inspirez de l'ailleurs? Avez-vous des modèles?
En fait, je vais commencer par ce qu'on a en commun avec Giacometti, c'est cette idée de faire des personnages en mouvement. Il fait ses hommes en mouvement. Ce que j'ai entendu aussi une fois, il disait que il ne peut pas faire des hommes autrement que des hommes qui marchent, mais il peut pas faire des femmes qui marchent. Il fait toujours des femmes debout. Et c'est une de ses citations. Et donc cette idée de mouvement, on l'a en commun, on va dire. Et quelques-unes de ces sculptures m'ont pas mal inspiré aussi, puisque j'ai fait des hommes qui marchent, qui ne valisent. Mais pour ce qui est de la source d'inspiration, donc comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est que ce qui m'intéresse, c'est de toucher un maximum de gens de façon directe et de façon aussi presque interactive. Et c'est la raison pour laquelle je fais des personnages rouges. Parce que les sculptures que je fais, dès que je fais un humain, je le fais tout rouge, pour la simple raison que je ne veux pas qu'on puisse reconnaître son origine.
Donc le rouge?
Le rouge, c'est le sang. Le rouge, c'est
celui
la chair.
Qu'on a tous de la même couleur.
Voilà. Et je fais comme si la peau était une couche de cellophane qu'on avait plaquée sur notre chair. Et du coup... On aurait tous la même couleur, en gros.
Mais vous ne travaillez jamais d'après modèle?
Quand je travaille d'après modèle, c'est qu'on me demande de faire un portrait ou qu'on me demande de faire quelque chose de particulier. Mais dans ma création propre, je n'utilise pas de modèle, effectivement.
Il y a peut-être un autre point commun avec Giacometti, c'est la violence contenue, ce qui explique dans son travail qu'elle est inhérente à son travail.
Oui, c'est vrai que Enfin, moi, je dirais aussi que on a tous une raison de faire de la sculpture qui est différente de l'autre. C'est vrai que lui, il parle de violence, enfin, qui est le résultat de certaines frustrations. Mais moi, la violence dont je parle, en fait, c'est la violence que je vois et que j'exècre.
Vous comprenez toujours pas pourquoi l'homme ne cesse de se battre, par exemple.
Voilà, et je comprendrai jamais, personne ne comprendra jamais comme pourquoi il n'arrive pas à arrêter, en tout cas.
Ouais.
Mais voilà, c'est surtout ça. Mais si je devais aussi, comment dire, définir mon travail, j'utiliserais plutôt une comparaison. Je dirais que mon travail, c'est comme un système nerveux qui dit aïe quand ça fait mal et qui dit ouais c'est bon quand c'est agréable, quand il y a du plaisir. Mais malheureusement, effectivement, il y a plus de aïe ça fait mal que oui c'est bon. Voilà.
Le jeune sculpteur que vous avez été mais que vous continuez à être a été surpris parfois de l'itinéraire de certaines de vos œuvres. Et là, je pense à celui, parce que il faut en parler, que vous avez baptisé Le Nageur, qui a atterri dans la cour de l'Élysée et qui aujourd'hui va se trouver exposé devant la Cité de l'Émigration à Paris, Porte Dorée, avec tout un projet derrière, mais qui vous dépasse là. C'est-à-dire que un mot là-dessus quand même.
En fait, faut juste préciser qu'en fait la sculpture s'appelle Dans le bonheur, trois points de suspension dans le bonheur. Mais comme ça représente un nageur, effectivement, c'est plus rapide de parler d'elle en tant que nageur. Mais c'est vraiment trois points de suspension dans le bonheur. C'est un jeu de mots que j'avais fait quand je venais d'avoir ma fille.
Oui.
Et là, je n'ai qu'une fille et c'était la découverte de ce que c'était que la paternité. Donc,
vous nagiez dans le bonheur.
Exactement. Et j'avais vraiment envie de jouer avec ce sentiment et de faire quelque chose. D'où le, enfin, quand je vous parle de système nerveux qui dit, ah ouais, là, c'est bien, c'est bon, je le sens bien. Donc, c'était pour ça que j'avais fait cette sculpture. Mais je l'avais faite à une occasion particulière. C'était qu'effectivement, il y avait les Journées européennes du patrimoine 2009. Et quelqu'un a eu l'initiative, quelqu'un de l'Élysée, a eu l'initiative de faire appel à des artistes, des jeunes artistes. Et il a pris l'initiative de faire ça de façon assez directe, sans passer par des galeries. Et donc, ils sont passés par l'École des Beaux-Arts.
Et celui qui avait eu les félicitations du jury, c'était vous à cette époque. Et donc, évidemment, cette statue est atterrie à l'Élysée. Et puis, on n'aura peut-être pas le temps de raconter la fin, mais ceci.
Où va Lila Jane? Ce matin, par tous les chemins, par tous les chemins, la pluie diluvienne tombe sur Lila. Elle ne la sent pas. Où vas-tu, Lila? Je fais au soleil, je marche au soleil. Don't
Il y a très peu de temps pour raconter la fin de celui que j'ai appelé le nageur, mais l'aventure n'est pas terminée, là.
Non, l'aventure n'est pas terminée, puisque il va faire partie de la prochaine exposition d'art contemporain du Palais de la Porte Dorée, la CNHI, Cité Nationale de l'Histoire de l'Immigration. L'expo « J'ai deux amours ». En fait, cette expo donc, est une expo d'art contemporain faite avec les collections du musée. Mais le nageur donc,
sera devant. Et puis alors, les autres verront bien qu'on peut voir tous ceux qui traversent aussi les frontières et qui sont des clandestins qui arrivent jusqu'à chez nous. En tout cas, ici, il n'y a personne qui est clandestin. Toute l'équipe est identifiée.
On l'est tous. C'est ça le principe de cette équipe. Donc il y avait Valérie Priolet, Perrine Malinge, Odémilie Judaïque, assistée de Marie Cardraon pour préparer toute cette émission.
Et ben oui, c'était ce soir Michel Bézikian et Ludivine Caron, une réalisation de Jérôme Chélius. Et demain, on partira vers l'Argentine, figurez-vous, Tania.
Et là, on part vers les addictions de Laurence Pierre, c'est ça qui est bien.